TVO Afrique, il est 14h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounezero dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. L'armée malienne annonce l'arrestation de deux terroristes, dont un chef de premier plan de l'organisation djihadiste État islamique au Grand Sahara, et tué plusieurs de ses combattants dans une opération la veille dans le nord du pays. L'armée présente Abou Hash comme un terroriste longtemps recherché et connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires exactions et abus contre les populations dans la région de Menaka et Gao, ainsi que les attaques contre les forces armées maliennes. Toujours au Mali, au moins 8 civils ont été tués dans le centre du pays, a-t-on appris dimanche de sources humanitaires et d'une coalition indépendantiste du Nord, le Front pour la libération de l'Azawad, qui accuse l'armée malienne et ses alliés russes de Wagner. L'armée malienne n'avait pour le moment pas réagi. Dans l'est de la RDC, le groupe armé M23 a pris le contrôle de Massissi selon des sources concordantes. C'est avec consternation que nous apprenons la prise de Massissi centre par le M23, a indiqué Alexis Bahunga, député de la province du Nord Kivu. Le centre de la ville est calme pour le moment, mais des civils ont fui vers des hôpitaux pour échapper à des coups de feu tirés plus tôt dans la journée, a indiqué une source hospitalière sous le couvert de l'anonymat. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre contre les paramilitaires, a salué une initiative turque visant à résoudre le conflit sanglant qui déchire depuis 20 mois ce pays d'Afrique de l'Est. Début décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré lors d'un entretien téléphonique avec le général Burhan que son pays pourrait intervenir pour résoudre les différends entre le Soudan et les Émirats arabes unis, ainsi que pour rétablir la paix et la stabilité au Soudan, selon un communiqué de la présidence turque.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La première ministre italienne Giorgia Meloni a rendu une visite surprise et non officielle au président américain élu Donald Trump dans sa résidence en Floride, selon les services de la première ministre dimanche. Cette visite de Giorgia Meloni intervient 4 jours après une visite à Rome du président américain Joe Biden, qui doit y rencontrer Madame Meloni et le pape François lors d'une entrevue séparée. Moscou a affirmé dimanche que l'Ukraine avait lancé une contre-attaque dans la région russe de Koursk, où les forces de Kiev contrôlent déjà plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis une offensive en août 2024. Selon l'armée russe, dimanche, dans un communiqué, le groupe d'assaut de l'armée ukrainienne a été vaincu par l'artillerie et l'aviation et l'opération de destruction des unités de forces ukrainiennes se poursuit. Israël a confirmé samedi la reprise des négociations indirectes avec le Hamas au Qatar en vue de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, où des frappes israéliennes ont fait plus de 30 morts selon les services de secours locaux. Le Hamas, qui avait fait état vendredi de la reprise des discussions, avait, lui, indiqué que les discussions porteraient notamment sur une cessation complète des hostilités et le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien assiégé et dévasté par près de 15 mois de guerre. Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shabani, a entamé dimanche une visite officielle au Qatar, sa première dans le pays du Golfe, depuis l'éviction du président Bachar al-Assad il y a près d'un mois, selon l'agence de presse syrienne. Le chef de la diplomatie est arrivé à Doha, accompagné du ministre syrien de la Défense et du chef des services de renseignement pour discuter des perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays, a indiqué Sana. Des milliers de partisans et détracteurs du président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol ont manifesté dimanche à Séoul, à la veille de l'expiration d'un mandat d'arrêt émis contre lui pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Les enquêteurs ont jusqu'à la dernière seconde lundi pour exécuter le mandat d'être émis contre Yoon Suk-yeol afin de le forcer à répondre aux questions sur sa brève imposition de la loi martiale.
Et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique. Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Mandela Kidza avec vous au micro. Notre sujet ce soir, laïcité et liberté religieuse. Quelle place pour des signes religieux à l'école au Sénégal? Josèle Morissin assure la réalisation de cette édition. Le Sénégal, réputé pour sa tolérance et sa coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses, vient de franchir un tournant avec l'autorisation du port de signes religieux dans les établissements scolaires, publics comme privés. Cette décision marque une étape importante dans la réaffirmation du vivre ensemble et de la diversité religieuse, mais soulève aussi des questions cruciales sur la laïcité, le respect des croyances individuelles et la neutralité de l'espace scolaire. Cet arrêt est-il nécessaire? Quel impact cette mesure aura-t-elle sur la société sénégalaise? Quels impacts pourrait-il avoir sur la coexistence des différentes religions dans l'espace scolaire? C'est ce que nous allons explorer ce soir dans ce dialogue des religions avec notre invité. C'est Ibrahima Kan de l'Ossua. Il est avec nous en ligne. Monsieur Kan, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue des religions.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Pourquoi pensez-vous que le port de signes religieux dans les établissements scolaires a ressurgi comme un sujet sensible au Sénégal?
Parce que c'était la volonté de l'actuel Premier ministre qui, au cours d'une rencontre avec de jeunes élèves qu'il avait reçus après une cérémonie de distribution des prix, leur a dit que désormais qu'il allait pratiquement imposer le port du voile dans toutes les écoles du Sénégal, qu'elles soient publiques ou privées. Mais à vrai dire, le problème s'était posé il y a quelques années, lorsque un groupe de jeunes de confession chiite avait dans une école privée catholique voulu porter des habits que l'école avait considéré, conformément au règlement à son règlement intérieur, inaptes à permettre aux enfants de vaquer à leurs occupations d'élèves dans la classe. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait suscité un tollé parce que ces jeunes filles avaient été soutenues par quelques familles sénégalaises et par quelques groupes religieux. Mais finalement, après des discussions entre le ministère de l'Éducation, l'école et les parents d'élèves, un compromis avait été trouvé et tout était rentré dans l'ordre. Donc, le fait que cette question revienne aujourd'hui, je pense, participe de la volonté du Premier ministre actuel d'imprimer un tout petit peu sa marque au fonctionnement de l'école et surtout de contenter un peu certains groupes religieux qu'il avait soutenus dans sa campagne pour la prise du pouvoir.
Pensez-vous que cette mesure peut affecter la neutralité de l'espace scolaire?
Alors, cette mesure a été une... Plutôt, cette mesure, elle est consécutive à un arrêté du ministre de l'Éducation nationale juste le jour de l'ouverture des classes en direction de toutes les écoles du Sénégal, leur intimant, si je puis dire, l'ordre d'accepter les enfants qui portent des signes religieux, que ce soit catholiques ou musulmans. Mais en réalité, cet arrêté visait simplement à imposer le port du voile dans les écoles privées. Et comme je vous l'ai dit tantôt, étant donné qu'une solution avait été trouvée, la question se pose de savoir, mais pour quelle raison a-t-on voulu vraiment casser ce consensus et créer une situation qui a même fait bouger un tout petit peu le clergé sénégalais et certains directeurs d'écoles catholiques, dont la plupart des élèves sont de confession musulmane, pour dire que la démarche des autorités n'était pas la bonne, et certains même avaient dit qu'ils allaient s'opposer à l'application de cette décision. Je pense que ici, une des conséquences immédiates, c'est de créer, en tout cas de susciter une sorte de polémique qui n'avait pas, à vrai dire, sa raison d'être, parce que On est dans un pays qui est un pays tolérant. On est dans un pays dont la constitution indique que l'État fonctionne en tant qu'État laïque, c'est-à-dire dans lequel l'État n'a rien à voir avec la religion, mais laisse les religions s'exprimer les uns les unes et les autres. Et donc, on ne voit pas vraiment quelle est la valeur ajoutée d'une telle décision dans le fonctionnement des écoles qui, cependant, ces écoles-là rencontrent beaucoup, beaucoup de difficultés, notamment au point de vue matériel, au point de vue infrastructurel et autres. Ce sont ces questions-là que les citoyens voulaient voir réglées par les autorités, ou en tout cas voir les autorités commencer à poser les jalons d'un règlement définitif de tous les problèmes de l'école, plutôt que de venir secouer un tout petit peu le baobab d'une certaine façon en essayant de créer une certaine polémique qui, heureusement, n'a pas encore pris forme, dans la mesure où beaucoup d'acteurs du secteur de l'éducation ont élevé la voix pour demander aux autorités de ne pas agiter cette question et demander aux autorités d'adopter une autre façon de faire pour vraiment amener un consensus autour de cette question-là. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui mérite d'être soutenu, et je ne pense pas que cette question-là va vraiment avoir un grand impact sur le fonctionnement des écoles dans les semaines et mois à venir.
C'est un arrêté pris par le ministre de l'Éducation. Est-ce que il reflète une volonté de renforcer la tolérance religieuse, ou est-il une réponse à une pression politique ?
Pression politique, peut-être pas, mais volonté politique de la part des nouveaux dirigeants d'imprimer leur marque sur le fonctionnement de l'école, oui. Parce que on sait que le parti PASTEF, qui est actuellement au pouvoir, a été beaucoup soutenu durant la campagne électorale par les responsables des DARA, qui sont des écoles coraniques et autres. Et donc, bénéficiant d'un tel soutien, je pense que, et puisqu'on est aussi à l'orée d'une élection législative, je pense que l'agitation allait dans le sens vraiment de mobiliser ce secteur-là pour qu'ils apportent aussi un soutien au parti. Mais du point de vue général, je n'ai pas vu un soutien massif de la part de la population. Je n'ai même pas vu de réaction vraiment très sérieuse de la part des confréries religieuses, qui sont quand même des entités très importantes chaque fois qui réagissent chaque fois que des questions importantes, surtout dans le domaine du religieux, se posent au Sénégal. Ils ont été pratiquement toutes silencieuses. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les acteurs de l'éducation ont vraiment appelé les autorités à mettre un tout petit peu bas la terre et à vraiment œuvrer dans le sens de la recherche d'un consensus plutôt que de vouloir imposer des mesures que eux seuls connaissent vraiment la réelle motivation.
Est-ce que c'est une mesure qui risque, par exemple, d'avoir un impact sur la qualité de l'enseignement, comme le craignent certains enseignants ?
Bon, sincèrement, non, parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit simplement pour les autorités de permettre à ce que les jeunes filles arrivent à porter le voile. Ce que les autorités religieuses catholiques, en tout cas, ce sur quoi les autorités catholiques avaient insisté, c'était le fait que, oui, pour le port du voile, mais pas pour le port vestimentaire qui peut constituer des problèmes lorsque les enfants vont avoir des activités scolaires telles que des activités sportives et autres à mener. Et donc, vous voyez que ça ne porte pas sur le contenu de l'éducation, c'est juste sur un certain nombre d'activités, un certain nombre de formalités pour vraiment permettre aux enfants de mener à bien leurs activités. Les activités en salle de classe, je ne pense pas que cela puisse avoir un impact. Vous voyez, C'est parce que c'est tellement superficiel, cette question du voile, que l'on se demande d'ailleurs pourquoi elle a été agitée à la veille de l'entrée des classes, alors que en fin d'année dernière, on aurait pu, puisque ils ont pris le pouvoir avant la fin de l'année, en fin d'année dernière, on aurait pu commencer à avoir des discussions avec les différentes entités. Chaque fois que l'école sénégalaise est confrontée à des réformes, ces réformes ont été discutées de fond en comble par toutes les parties prenantes, et généralement, les parties prenantes arrivaient à des consensus, et ces consensus permettaient de régler le problème. D'ailleurs, la structure qui regroupe des syndicats, des organisations de la société civile, qui s'appelle COSIDEP, a sorti un communiqué dans lequel il a vraiment insisté sur le fait que les autorités doivent vraiment agir dans le sens du consensus plutôt que de vouloir coûte que coûte imposer des mesures qui n'ont pas été discutées avec les parties prenantes. Donc c'est vous dire que aujourd'hui on a, comme qui dirait, l'État contre tout le reste de la communauté scolaire sur cette question. Et ça, je pense que c'est déjà un bon indicateur pour bien saisir le caractère vraiment politicien de la démarche des autorités plutôt que la recherche vraiment de mesures, plutôt la mise en place de mesures susceptibles d'aider les filles sénégalaises à mieux pratiquer leur religion au niveau de l'école. Parce que à l'école au Sénégal, que ce soit dans les écoles catholiques ou dans les écoles musulmanes, il y a des espaces pour prier, il y a des espaces pour se reposer, et donc le port du voile n'est pas vraiment un élément très important dans le bon fonctionnement de l'école, surtout quand il s'agit de pratiquer sa religion.
Vous suivez le dialogue des religions, Eric Mandela-Kiza avec vous ce soir. Laïcité et liberté religieuse, quelle place pour les signes religieux à l'école au Sénégal? Notre invité, c'est Ibrahima Kane. Ne partez pas, nous observons une petite pause. Monsieur Kane, comment concilier la liberté religieuse des élèves avec la nécessité de respecter la discipline et l'ordre dans les écoles? Quels ajustements seront nécessaires pour appliquer cette nouvelle mesure tout en préservant les valeurs fondamentales de l'école?
Normalement, toutes les écoles sénégalaises ont un règlement intérieur. Et c'est le règlement intérieur qui vraiment gère toutes les questions comportementales, toutes les questions vestimentaires et autres. Et ici, donc, ce qui est demandé à travers l'arrêté ministériel, c'est des changements dans le règlement intérieur pour permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer leur religion. Et comme je vous l'ai dit, si on s'appuie sur l'expérience passée, le règlement intérieur d'une école catholique, à l'époque, c'était une école des sœurs, avait permis, en tout cas le dialogue entre les autorités et l'école avait permis de trouver un compromis, et les jeunes filles en question étaient parvenues à continuer leur cours en respectant un certain nombre de règles. Et je pense que dans ce cas précis aussi, ça devrait être la même démarche, même si le gouvernement décrète qu'il faut accepter le port du voile dans les écoles, parce que les écoles ont quand même une certaine marge de manœuvre qui leur permet d'adapter la mesure qui est prise par les autorités à la réalité de l'éducation de tous les jours pour permettre aux enfants de pouvoir mener à bien toutes les activités éducatives au niveau de l'école. Donc, en dehors de cette réforme du règlement intérieur, je ne vois pas d'autres mesures qui pourraient être prises pour changer la donne. Et c'est tellement minime, par exemple, que le règlement intérieur, heureusement, ne sépare pas les garçons des filles pour l'organisation des activités d'éducation physique et autres. Parce que si ces mesures-là avaient été prises,
Là, ça aurait été une indication qu'on est vraiment dans un vrai tournant, qu'on est en train de vraiment changer la donne au niveau de l'éducation. L'éducation est laïque, le Sénégal est un pays laïque, et je me souviens encore de l'article du professeur Seydou Madanissi qui disait que la laïcité sénégalaise est une laïcité compréhensive, en ce sens que au Sénégal, dans le système laïque qu'on a mis en place, c'était un système laïque dans lequel toutes les religions doivent se retrouver. Toutes les religions doivent trouver leur place dans le système. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que si vous prenez le code de la famille le code de la famille sénégalais, c'est un seul code pour aussi bien les musulmans, les catholiques et les personnes qui ont des religions animistes et autres. Donc vous voyez que dans un contexte pareil, il faut que les gens sachent raison garder et il faut que on prenne des mesures qui n'ont pas d'impact négatif sur la façon, la manière dont les religions peuvent penser l'exercice de la religion par les enfants. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très, très, très clair au Sénégal et j'espère que la manière dont les mesures vont être appliquées vont permettre de faire respecter cette laïcité-là telle que nos dirigeants jusqu'à présent l'ont conçue.
Vous avez lu dans ma pensée, j'allais justement vous poser une question sur la définition de la laïcité dans le contexte sénégalais. Et selon vous, venez donc d'y répondre. Est-il juste de dire que la question du port du voile a pris trop d'importance par rapport aux défis réels de l'éducation au Sénégal?
Tout à fait. Bon, vous savez, quand une équipe nouvelle vient au pouvoir, elle a toujours tendance, ça a été le cas de Abdoulaye Wade lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le cas de Macky Sall lorsqu'il est arrivé. Ils ont le régime qui prend le pouvoir a toujours tendance à vouloir imprimer sa marque sur le fonctionnement de l'État. Macky Sall avait organisé des assises de l'éducation de l'enseignement supérieur, Abdoulaye Wade avait aussi organisé des assises, et je pense que les nouvelles autorités-là ont voulu commencer leur action dans le domaine éducatif en insistant sur cet aspect symbolique-là qui est le respect de le respect du port du voile dans les écoles privées en pensant que c'était une manière de dire que que les musulmans peuvent aussi exprimer leur appartenance religieuse. Mais en même temps, la question elle est tellement mal posée parce qu'on risque de se retrouver dans une sorte de fuite en avant populiste des autorités. Parce que l'école sénégalaise, il y a quelques semaines, le Premier ministre lui-même, en préparant la rentrée scolaire, avait fait le constat sur l'école sénégalaise. Mais c'est un constat assez dur. L'école sénégalaise manque presque de 40 000 enseignants. On a 7 000 abris provisoires, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas de salles de classe. Des abris provisoires, c'est des cases, c'est des trucs qu'on utilise pour encore enseigner. Il y a eu tellement de problèmes qui ont été posés dans ce diagnostic-là, que l'on aurait pensé que les autorités commenceraient par régler ces problèmes-là plutôt que d'insister sur des aspects qui sont vraiment assez dérisoires par rapport aux vrais problèmes de l'éducation. Donc vous voyez que dans cette démarche-là, il y a vraiment une approche politicienne de la chose et ce que les autres acteurs ont dit, c'est qu'aux autorités de ne pas se tromper aussi de cible, de ne pas se tromper de problème, parce que les problèmes les plus importants, surtout quand on veut qu'à l'horizon 2050, le Sénégal ait les ressources humaines qui lui permettraient de vraiment aller dans le sens d'un développement économique et social, il faut penser à renforcer les infrastructures, à renforcer tous ces autres aspects-là, dont la formation des cadres et autres, plutôt que d'insister sur des aspects qui sont vraiment minimes par rapport à la question. Quelle est l'utilité de porter le voile dans une école privée. Ils vont apprendre la même chose. Ils vont avoir le même enseignement. Le signe religieux n'a aucune importance dans l'enseignement qu'ils reçoivent, dans la façon dont ils vont se comporter dans la cour. Donc, vous voyez que c'est une polémique qui ne devrait vraiment pas en être une. Et c'est pourquoi, lorsque les acteurs ont commencé à élever la voix, tout le monde s'est accordé pour dire que vraiment, il faut mettre un terme à cette polémique naissante. Et je pense que depuis, on est maintenant à presque 3 semaines de l'ouverture des classes, personne n'en parle. C'est vraiment un point qui est dépassé, une polémique qui est mort-née. Et bon, maintenant, on verra si d'autres actes vont être posés pour savoir si vraiment il s'agit d'une islamisation de l'enseignement ou bien s'il s'agit d'autre chose. Ça, vraiment, c'est ce qui reste à voir. Puisque hier, les autorités ont décliné dans l'agenda 2050 qu'ils vont mettre en œuvre que leur agenda pour l'éducation, on n'en a pas parlé. Donc, cela veut dire que que cette polémique-là va s'estomper très bientôt.
Est-ce que le gouvernement actuel est-il capable de revoir sa copie et de faire marche arrière sans plonger dans le populisme, comme vous l'avez dit? Quel rôle l'État devrait-il jouer pour assurer un équilibre entre la liberté religieuse et la laïcité dans les écoles?
Alors, comme je vous l'ai dit, en tout cas, la laïcité telle qu'elle est comprise ici au Sénégal, c'est que tout le monde compte. Si on veut que tout le monde compte, il faut trouver un point de consensus sur le fonctionnement, en tout cas sur la manière de régler sa façon de penser religieusement au niveau de l'école. Donc ça, ce consensus-là, il a toujours été là, et je pense que ce consensus-là va rester. Deuxièmement, l'État aussi a la possibilité, une fois qu'il aura vu que, au fond, il n'y a pas eu de polémique, de revoir ce texte-là et de faire en sorte que il n'ait pas trop d'impact sur les règlements intérieurs des écoles. Troisièmement, et bon, heureusement que les gens n'ont pas agi dans ce sens-là, les directeurs des écoles catholiques, les parents d'élèves catholiques et autres avaient aussi la possibilité de saisir la justice, parce que c'est un arrêté ministériel qui est susceptible de faire du tort à des personnes, et ces personnes-là ont la possibilité de saisir les tribunaux administratifs. Mais jusqu'à présent, tout le monde a considéré que bon, que c'était pas un problème très 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 sérieux, que peut-être après quelques semaines de pratique, on se rendra compte que bon, qu'il n'y a pas péril en la demeure, et que donc on doit laisser les choses se tasser d'elles-mêmes. Et je pense que c'est cette démarche qui est prise, et si cette démarche-là se conforte, elle va montrer que l'idée que les Sénégalais se font de la laïcité de leur État est la bonne idée. Et que même si par-ci, par-là, des fois des gens peuvent lui donner un coup de boutoir, les Sénégalais vont rester fermes pour vraiment garder cette conception de la laïcité. Parce que c'est cette laïcité-là aussi qui fonde le vivre ensemble, qui fonde la tolérance qu'on connaît au Sénégal et qui est vraiment matérialisée par le mot teranga. Et donc, j'espère que tout le monde saura raison garder et que les choses reviendront rapidement dans l'ordre.
Teranga, tout le monde dans le même bateau. Ce débat sur la laïcité et le port des signes religieux en milieu scolaire au Sénégal nous rappelle l'importance de concilier liberté religieuse et respect des principes de neutralité dans l'espace public. Monsieur Kan, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci également à Joselle Morissin qui a assuré la production et la réalisation. Eric Manilakiza vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.